en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Pascal Villis, géophysicien, chercheur à l'Institut physique du Globe de Paris, vous propose dans cette conférence de faire la connaissance de DORIS. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. DORIS, c'est l'acronyme de détermination d'orbite et radiopositionnement intégré par satellite. En d'autres termes, un système de plusieurs satellites qui servent à localiser d'autres satellites, mais également à faire des mesures altimétriques spatiales et aussi à faire des relevés de positionnement géodésique. La grande quantité de mesures disponibles permet ainsi d'estimer de manière très précise la vitesse absolue des stations au sol et d'en tirer des informations pour l'étude de la tectonique des plaques ou l'évolution du niveau des océans en liaison avec des données de marégraphes. Créé en 1992 à l'initiative d'équipes franco-américaines, le système DORIS était conçu initialement pour une période de 6 mois, mais fort de son succès, il fonctionne depuis près de 20 ans. Laissons sans plus tarder la place à Pascal Villis pour nous présenter les atouts du système DORIS au cours d'une conférence qui avait lieu en janvier 2010 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France.
Le système DORIS, en fait, DORIS veut dire détermination d'orbite et radiopositionnement intégré par satellite. Donc c'est un système qui fait de l'orbitographie de satellite et aussi, ce dont je vais parler plutôt aujourd'hui, de la géodésie, c'est-à-dire déterminer des positions de stations au sol, les vitesses. Et puis, je continuerai cet exposé aussi pour montrer quelques applications nouvelles de type plus géophysique que géodésique. Donc vous avez là deux exemples d'antennes DORIS dans des environnements très différents, une en Polynésie, une en Antarctique. Donc c'est un système qui marche partout. Alors, je vais d'abord essayer de présenter le système DORIS d'un point de vue historique. Pourquoi on a fait ce système, à quoi ça sert, comment ça marche. Très rapidement, je parlerai de résultats sur l'orbitographie des satellites DORIS, puisque c'est le but premier de ce système. Mais je passerai une grande partie de l'exposé plutôt à parler de mon domaine de recherche, c'est-à-dire la géodésie spatiale, et depuis peu de la géophysique. Bien, alors le système DORIS, en fait, c'est un système qui était conçu au début pour faire de l'altimétrie spatiale. Alors dans l'altimétrie spatiale, on a un système qui est un système radar qui envoie une impulsion, qui se réfléchit sur la mer, qui revient. Et avec ce système radar, ce qu'on mesure, en fait, c'est deux fois cette hauteur-là. Donc si on a accès à l'altitude du satellite, on est capable tout de suite d'en déduire une information sur le niveau de la mer à cet endroit et à cet instant. Donc en refaisant un tout petit peu l'historique, dans les années 80 et quelques, donc les Français et les Américains essayaient de lancer un système qui était trop cher pour les Français, trop cher pour les Américains. Et des gens comme Michel Lefebvre ont eu l'idée géniale de grouper les efforts et de faire un projet franco-américain qui finalement a vu le jour, donc avec un altimètre, enfin deux altimètres, un français et un américain. Et comme il faut un système à bord pour faire de l'orbitographie, les Américains ont dit qu'ils mettaient un système de télémétrie laser et les Français ne se sont pas dégonflés en disant bah, « nous on n'a rien, mais on a des idées, donc on va créer un nouveau système qui va servir justement à calculer l'orbite du satellite ». Voilà. Alors ce système, c'est le système DORIS dont je vais parler maintenant, et c'est un système qui est basé sur l'effet Doppler, c'est-à-dire qu'on a des stations au sol qui émettent une onde omnidirectionnelle, le satellite reçoit cette onde, et il va mesurer le décalage Doppler, suivant que le satellite va vers la balise ou s'éloigne, et donc là il faudra me croire sur parole, si vous avez un très grand nombre de mesures de ce type, vous êtes capable à ce moment-là de déterminer la position du satellite, mais aussi la position des stations au sol, la rotation terrestre. On verra un certain nombre d'autres paramètres qui interviennent dans cette mesure Doppler. Alors les satellites DORIS, en fait, c'est très différent de GPS. C'est-à-dire que GPS, on a un système de satellites qui sert à se localiser au sol. Là, dans le cas de DORIS, on a un système de stations au sol qui sert à localiser les satellites. Un système inversé. Et donc le nombre de satellites DORIS va dépendre du nombre de missions en cours. Donc il y a eu des missions de type altimétrique, Topex, Poséidon, dont je reparlerai, Jason 1, Jason 2 l'an dernier, Envisat, et puis des satellites un peu d'opportunité, c'est-à-dire des satellites pour lesquels on n'a pas besoin d'une orbitographie très précise, mais Donc spot 2, spot 3, spot 4, spot 5, comme le CNES était très impliqué, ils ont mis un récepteur Doris à bord pour des besoins, à ce moment-là, de géodésie dont je vais parler maintenant. Si on raisonne en termes de données Doris qui existent, alors j'ai oublié de dire aussi que le premier satellite Doris a été lancé, donc le but étant Topex Poséidon lancé en 92, on a lancé Spot 2 en janvier 90, donc exactement 20 ans depuis aujourd'hui, à titre probatoire, pour démontrer la fiabilité du système. Et ce satellite qui devait fonctionner 6 mois, en fait, a été arrêté l'an dernier, au mois de juillet. Donc vous voyez que le système est assez robuste. Donc le nombre de satellites évolue dans le temps en fonction des satellites disponibles. Il a été pendant longtemps de l'ordre de 2 à 3 satellites. Et depuis peu, on est plutôt à 5-6 satellites. Ce qui, pour la géodésie, est très important. Parce que plus on a de satellites dans le ciel, plus on a de mesures au sol. Et plus on a de mesures au sol, meilleure sera la position qui va être calculée à partir de ces mesures Doppler. Donc on verra. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir de 2002, lancement de Spot 5 en VSAT, on a un saut quantique, c'est-à-dire on a beaucoup plus de satellites, donc on peut s'attendre aussi à avoir une meilleure précision géodésique. Alors voici l'historique de tous les satellites. Donc j'ai parlé un petit peu des anciens. Donc on se trouve depuis le lancement de Jason 2 en 2008. Et en 2010 est prévu le satellite Cryosat 2, donc pour l'étude des glaces. Et 2011, vous avez un satellite, donc Cryosat, qui est un satellite de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Saral Altica, qui est un satellite indien, franco-indien. Et puis HY2A, qui est un satellite chinois, en fait. Il y a même plusieurs satellites. Donc vous voyez que là, on est en fait une période de transition. On a eu jusqu'à présent peu de satellites Doris. Et là, on va, dans un avenir proche, potentiellement, avoir de plus en plus de satellites Doris. Alors au niveau sol, eh bien, on a ce réseau de poursuite qui, comme on cherche à faire une orbitographie précise des satellites, on a intérêt à ce que ce réseau soit le plus homogène possible. Si on avait toutes les stations dans la même zone, l'orbite dans cette zone-là serait très très bien connue, et puis de l'autre côté de la Terre, très très mal connue. Donc c'est pour ça que c'est une distribution très homogène, et là les couleurs représentent les durées d'observation. Donc tout ce qui est rouge, vous voyez qu'il y en a beaucoup, en fait sont des stations qui fonctionnent depuis 1990, depuis 20 ans. Et puis vous en avez très peu de jaunes et de vertes, qui sont en fait des stations qui ont été remises plus récemment, en particulier ici pour pallier des trous de couverture. Alors ces stations, elles sont en colocation avec d'autres techniques de géodésie spatiale dont on a parlé avant, qui sont les techniques GPS, les techniques de télémétrie laser, techniques VLBI, et puis aussi d'autres points dont je parlerai un petit peu plus tard, c'est-à-dire des marégraphes. Une trentaine de stations sont sur des îles proches de marégraphes, ou de gravimètres absolus aussi. Alors ce réseau, il faut l'entretenir. Donc le réseau a été installé et maintenu par l'IGN. J'ai oublié de dire au début, évidemment, que le système de risque est un projet du CNES, l'Agence spatiale française, et que l'IGN a aidé en mettant en place ce réseau et en assurant sa maintenance. Donc là, ce diagramme montre l'évolution de la stabilité de la station, stabilité physique. Et on voit que depuis 1999, en fait, un gros effort a été fait. Alors pourquoi cet effort a été fait? C'est qu'au début, la précision attendue était de l'ordre de plusieurs centimètres. Donc une stabilité physique de l'antenne de l'ordre de quelques millimètres était suffisante. Et puis on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire mieux. D'où l'idée de rénover tous les sites. Vous voyez que tout ce qui est vert et jaune sur ce dessin sont des sites maintenant d'excellente qualité qui représentent 90 ou 95% du réseau de risque qui est de très bonne stabilité géodésique. Alors, quels sont, puisque le but c'était de déterminer l'orbite des satellites, je vais vous montrer quelques résultats récents. Alors comment est-ce qu'on caractérise-t-on la précision d'une orbite de satellite? C'est un problème assez difficile parce que vous ne pouvez pas prendre une règle et mesurer où se trouve le satellite non plus à tout instant. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a déjà une méthode interne, c'est-à-dire qu'on va faire des calculs jour après jour. Et donc ça, c'est la petite courbe bleue. Et sur ces jours, au lieu de calculer 24 heures, on va calculer plus. On va calculer par exemple 30 heures. Donc 3 heures avant, 3 heures après le jour. Ce qui fait qu'entre deux jours consécutifs, on a 6 heures communes. qui sont calculées avec des mesures différentes. La position du satellite doit être la même. Donc quand on compare les résultats qui viennent de la veille avec les résultats qui viennent du lendemain, on a déjà une précision qu'on peut appeler interne. Donc on sait que le système n'est pas meilleur que ça. Si on remonte dans les années 90 et avant, la précision d'orbite était de l'ordre de 50-80 cm en radial. Et l'objectif qui était pour Topex était de faire, le challenge à l'époque était de faire 2 cm et on s'attendait plutôt à trouver une dizaine de centimètres. Donc là, ce sont des résultats d'ORIS, donc la petite courbe bleue, de comparaison interne et on voit que eh bien, on s'approche plutôt des 10 mm en radial, c'est-à-dire qu'on sait où se trouve le satellite dans cette composante, à peu près à 10 mm. Alors ça, c'est un accord interne. Une autre manière d'analyser ça aussi, c'est de comparer avec des résultats d'autres mesures. Alors j'ai dit qu'il y avait d'autres systèmes sur JASON ou TOPEX qui sont du GPS et de la télémétrie laser. Donc là, la courbe rouge et noire, en fait, sont des comparaisons avec une orbite qui a été faite avec des mesures différentes, des orbites GPS, sur la totalité de la journée, donc on a pris les 30 heures, et on regarde l'accord entre la position qui est déduite des mesures d'ORIS et la position qui est déduite des mesures GPS. Et on voit que eh bien, l'accord, évidemment, va être moins bon, puisque c'est un accord de type externe, mais il reste aux alentours de 13-14 mm en radial, qui est la composante qui intéresse directement les océanographes. Alors l'autre chose sur l'orbitographie précise, ça c'était de l'orbitographie en temps différé, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les mesures, on a tout le temps, on a quelques jours ou quelques semaines pour calculer l'orbite. Mais l'autre spécificité de Dory, c'est que le système étant inversé, ce sont les stations qui émettent et le satellite qui reçoit, les mesures existent à bord du satellite. Donc on peut, à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Diode, qui a été conçu par le CNES, calculer en temps réel cette fois-ci, l'orbite du satellite. Alors c'est un peu moins précis parce qu'on n'a pas les mesures avant et après, on a seulement les mesures avant et on fait de l'extrapolation, mais ça permet de voir aussi des phénomènes, donc une précision de l'orbite plutôt de l'ordre de 5 cm, voire un petit peu mieux, et de voir des phénomènes que l'on a envie de voir très rapidement. Alors, donc pour la géodésie, on fait le même calcul, sauf que cette fois-ci, on va calculer la position des stations au sol à partir de cet effet Doppler. Et pour caractériser l'exactitude du résultat, eh bien, on va calculer toutes les mesures depuis 1990-93. On va faire l'hypothèse que les stations ont simplement une dérive, donc une position et une vitesse. Et pour chaque semaine, on va comparer la position issue des mesures de la semaine avec ce modèle simple, position-vitesse. Donc c'est ce que l'on observe ici. Et on voit effectivement qu'il y a une amélioration de performance à partir de 2002 parce qu'on a beaucoup plus de satellites et qu'on obtient cette fois-ci des précisions de l'ordre de 10 mm. Donc la position de la station est déterminée à 10 mm en une semaine. Si on se reporte aux des simulations qui avaient été faites avant le lancement de Topex Poséidon, on espérait faire mieux que 10 cm avec un mois de mesure. Donc là, maintenant, on fait 10 mm avec une semaine. Donc là, ce qu'on voit, c'est simplement les changements de constellation de satellites. Donc là, on en a deux, là, on en a trois, un peu mieux, deux, puis trois, puis là, cinq, six. Alors, une autre particularité dont on a discuté aussi une fois dans ces séances de bureau des longitudes, c'est ce qu'on appelle les mouvements du géocentre. Alors, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, si je considère le système Terre, atmosphère, océan, toutes ces choses-là bougent, en fait, dans le temps. Si je considère, donc je vais définir le point que je vais appeler le barycentre de toutes ces masses, Terre, atmosphère, océan. Dans ce système-là, si je considère que la Terre est rigide, elle va se déplacer par rapport à ce point qui, lui, n'est fixe que dans l'ensemble Terre, atmosphère, océan. Ce qui veut dire que les stations qui sont, elles, accrochées à la croûte vont avoir toutes un mouvement d'ensemble. Elles vont tous aller à droite, à gauche, en haut, en bas, mais tout ensemble. Donc ça, pour les géodésiens, ce n'est pas très, très agréable. Donc on va plutôt définir un système qui va être attaché à la Terre. Et quand on définit ce système qui va être attaché à la Terre, à ce moment-là, on va avoir à tenir compte de cette variation temporelle entre le centre, si on veut, de la Terre et le barycentre des masses, Terre, atmosphère, océan. Donc c'est ça qu'on appelle le mouvement du géocentre, donc qui est lié au mouvement de masse dans le système Terre-atmosphère-océan. typiquement, on s'attend à des mouvements plutôt de nature annuelle et de l'ordre de 5 mm. Alors, si on se reporte aux solutions qui ont été fournies il y a à peu près 5 ans pour l'ITRF 2005, sur la composante qui était la pire, c'est la composante Z, on obtenait ce mouvement du géocentre issu de Doris, c'est-à-dire des amplitudes qui allaient de jusqu'à 5 cm, donc qui ne représentaient pas du tout la physique à laquelle on s'attend, puisqu'on s'attend à quelques millimètres près. Alors, si on fait une étude fréquentielle de ce signal-là, on se rend compte qu'on a en fait des périodes qui sont caractéristiques, qui sont 1 an et 118 jours. Et c'est ce qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille avec une étudiante qui s'appelle Marilyn Gobindas, en disant, 118 jours, c'est ce qu'on appelle la période draconitique de Topex, c'est-à-dire la période au bout de laquelle le satellite, la Terre et le Soleil se retrouvent exactement dans la même disposition géométrique. Donc, c'est-à-dire, il se passe quelque chose qui est lié au Soleil, donc à la pression de radiation solaire. Et dans nos calculs, en fait, la pression de radiation solaire, elle dépend de l'orientation des panneaux solaires vers le Soleil, plus on est en face, plus la surface est grande, et puis de coefficient de réflectivité, savoir si on absorbe beaucoup les photons ou pas. Et donc, on avait toujours estimé un paramètre multiplicatif qu'on estimait tous les jours. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il ne fallait pas estimer ce paramètre, puisqu'il était très corrélé, justement, avec le géocentre. Donc, dans la deuxième étude qu'on a soumise pendant cette année, lorsqu'on n'estime plus ce paramètre, on voit que la nouvelle série du géocentre est déjà beaucoup plus raisonnable. Et si on regarde l'analyse fréquentielle, on voit que les pics, donc là, qui sont des erreurs de calcul d'Oris, hein, pas dans les mesures, mais dans la modélisation, ont disparu et que le signal annuel, cette fois-ci, se rapproche de 4-5 mm, donc potentiellement possède des informations de type géophysique. Alors, on s'est intéressé dans cette nouvelle série aussi, il y a quelques années, un certain nombre de gens avaient remarqué que dans les séries temporelles de position aussi de stations, on observait des signaux bizarres, des signaux à 118 jours, des signaux à 1 an, qui ne pouvaient pas être expliqués par des phénomènes géophysiques et qui visiblement étaient des erreurs d'Oris. Donc ce que l'on constate simplement, c'est que dans la nouvelle solution qui a été calculée pour l'ITRF 2008, eh bien, ce bruit a été beaucoup diminué et ces signaux, grâce à ce nouveau calcul de la pression de radiation solaire, n'existe plus. Donc il reste, vous voyez par exemple dans cette station sur l'aspect vertical, il reste un signal de l'ordre de 4 mm en vertical, mais ce signal peut être de nature géophysique. Alors, j'ai choisi donc trois exemples d'applications géophysiques. Le premier, quand on est capable de déterminer la position des stations semaine après semaine, on est aussi capable de déterminer la dérive, c'est-à-dire la vitesse de ces stations dans un système de référence géodésique. Alors, cette vitesse, elle va indiquer déjà au premier ordre, dans l'aspect horizontal en tout cas, la dérive des plaques tectoniques, donc que l'on va pouvoir mesurer avec le système d'Oris. Donc, voilà un exemple donc d'un article qui va d'ailleurs paraître dans les jours qui viennent de Argus, Gordon et une longue liste d'auteurs, qui s'est intéressé à utiliser les résultats de position de station qui viennent de plusieurs techniques, de GPS, VLBI, laser et aussi de Doris, pour en déduire ce qu'on appelle un modèle de plaque, c'est-à-dire faire l'hypothèse donc, que les plaques, par exemple l'Europe, la Nubie, la Somalie, sont des plaques fixes qui se déplacent horizontalement sur la surface terrestre. Et lorsqu'on veut décrire ce mouvement, il suffit de deux choses. Il suffit de dire où se trouve l'axe de rotation de cette plaque et puis la vitesse de rotation de cette plaque. Donc là, dans l'étude, on compare en fait différents modèles entre eux. Alors, pour les gens un peu familiers avec ces problèmes-là, donc on voit un modèle un peu ancien qui est le modèle Nouvelle 1A. Et sur ce diagramme, donc, le petit rond est ce qui est donné par le modèle. Et l'ellipse, en fait, ça représente l'erreur. Donc on voit que le nouveau modèle qui s'appelle GeoDvel, qui est le modèle en jaune, a des ellipses qui sont plus petites parce qu'elles utilisent plus de mesures. Il y a eu des hypothèses géophysiques aussi, c'est-à-dire il faut définir si telle station appartient à telle plaque ou si elle est dans une zone de déformation qu'on appelle une zone orogène, donc qui n'appartient pas à la plaque fixe. on voit que ce nouveau modèle, en fait, est incompatible avec l'ancien modèle nouvelle 1A, dans ce cas particulier, entre la Nubie et l'Europe, l'Eurasie. Et cette remarque est vraie pour la plupart des plaques entre elles. On voit en rose un modèle qui provient en fait de l'analyse de l'ITRF 2005, qui est basé aussi sur plusieurs techniques, GPS, Doris, laser, VLBI. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'encourageant, c'est-à-dire qu'un certain nombre de collègues à l'étranger trouvent un intérêt à utiliser, non pas directement les mesures de ce système, mais les résultats en termes de position, en termes de vitesse de station. Un autre aspect que j'ai mentionné au début, c'est que le système Doris, comme on a voulu faire quelque chose d'homogène et que les océans représentent quand même à peu près 70% du globe, eh bien un grand nombre de stations se trouvent sur des îles à proximité de côtes et potentiellement à côté de marégraves. Donc dans cette carte, tous les points en vert en fait, sont des stations Doris qui sont colocalisées, c'est-à-dire proches d'une station marégraphique qui, elle, va regarder l'évolution du niveau de la mer. Et ça, c'est potentiellement très intéressant parce que le système Doris va fournir la position et puis la vitesse verticale de la station Doris. Le marégraphe va fournir la différence entre le niveau de la mer par rapport à la croûte terrestre, donc par rapport à cette station Doris. Donc en liant les deux, on va avoir une information sur le niveau des mers à proximité de la côte, mais de manière absolue. Alors, à quelle précision ? Parce qu'il faut, il faut regarder ça un petit peu. C'est-à-dire que vous savez que le niveau des mers, donc à l'heure actuelle, on pense qu'il change de l'ordre d'à peu près de 3 mm par an au cours des dernières décennies. Donc, il faut que cette vitesse verticale de risque, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit meilleure que ces 3 mm par an. Alors, ça va dépendre, en fait, de la quantité d'observations de risque que l'on a, bien sûr. Plus on a des observations longues, plus la vitesse verticale sera mieux déterminée. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est la quantité d'observations. Donc grosso modo, toutes ces stations-là sont des stations qui fonctionnent depuis 1990. Et puis les autres sont des stations qui ont été installées plus tard, c'est-à-dire qu'on a changé l'endroit où était installée la balise. Donc plus on a d'observations, plus les vitesses verticales vont être petites. Donc je vais expliquer les deux cas particuliers ici. Ce qu'on observe donc, sur cette courbe-là, pour les stations récentes, on a effectivement des précisions qui sont moins bonnes. Alors, moins bonnes, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour les dernières installées, on a à peu près 1 mm par an, alors que pour celles qui sont installées depuis très longtemps, d'où l'intérêt du système de RIS, ce sont des précisions, la formelle, de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm par an. Alors ça, c'est aussi conforté avec d'autres comparaisons sur lesquelles, comme on a du GPS ou du VLBI du laser, on va comparer la vitesse verticale issue de Doris avec la vitesse verticale issue d'autres mesures. Et dans les meilleurs cas, c'est l'accord que l'on trouve à l'heure actuelle. Une fois qu'on a défini le système de référence, une fois qu'on s'est dit on est dans l'ITRF 2005, lorsqu'on fait les choses proprement, on est capable de donner des vitesses verticales GPS et Doris qui sont cohérentes entre elles, à 0,02 mm par an, typiquement. Alors, les deux cas particuliers, le premier cas dont je vais parler, c'est le cas de Socorro, et puis le deuxième, Santiago. Simplement, c'est un peu une erreur sur ce graphique, c'est-à-dire que cette station a été installée en plusieurs fois, et les deux balises, en fait, sont très, très distantes. Donc, comme elles sont très distantes, on ne prend pas le risque de dire que la vitesse verticale est la même. Donc, c'est comme si on avait, en fait, une série temporelle qui est beaucoup plus courte. Donc, je vais plutôt parler de l'autre station qui est plus intéressante, qui est la station de Socorro. Quand on regarde les valeurs maintenant des vitesses verticales, voilà ce que ça donne. Donc, les vitesses verticales sont des choses qui sont petites. Là, vous l'avez, 5 mm par an se trouve ici. Donc, vous voyez que les vitesses verticales déterminées par Doris sont en général petites, avec quelques exceptions. Donc, vous avez les écarts types aussi. Thulé, par exemple, où on a une station GPS qui conforte cette mesure-là. Je vais parler plutôt de la station de Socorro. Donc, cette station de Socorro, donc Annie Cazenave l'avait étudiée à partir de ce jeu de mesures, donc sur la période de 93-98, et on voit que cette station a l'air de s'enfoncer dans le sol. Alors, ça nous avait beaucoup surpris à l'époque, parce qu'elle s'enfonce à une vitesse qui est de l'ordre de, vous voyez, presque 10 cm par an, en absolu, ce qui, à l'époque, était assez incompréhensible. Et Annie Cazenave, donc de Toulouse, a eu l'idée de regarder ce qui se passait sur le marégraphe à côté. Et le marégraphe à côté lui disait que eh bien, la mer monte de 10 cm par an. Et quand on regardait ce que disait l'altimètre qui, lui, regarde le niveau de la mer, le niveau de la mer, lui, ne bougeait pas. Donc la conclusion, c'est que ce qu'on voyait simplement, c'est qu'effectivement, la station Doris s'enfonçait. Et l'hypothèse qui avait été fournie, c'est que cette île est une île volcanique et ayant eu une éruption avant cette date, ce que l'on observait, c'était l'affaissement, si on veut, du volcan que l'on voyait sur la station qui se trouve à quelques kilomètres de distance, 10 cm par an, soutenu pendant 3 ans. Alors avec un collègue de l'École normale supérieure, qui est Pierre Briolle, on s'est demandé si on pouvait essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire essayer d'expliquer pourquoi ensuite c'était revenu normal, et puis aussi expliquer est-ce qu'on peut regarder non plus seulement l'aspect vertical, mais l'aspect horizontal. Alors cette station de Socorro, elle se trouve au sud du Mexique, c'est une toute petite île de quelques kilomètres, mais avec un énorme volcan qui s'appelle le Mont Everman. Et lorsqu'on regarde la série temporelle, donc là c'est sur la composante nord, je crois, donc sur la composante nord, la courbe noire est ce qu'on attend à partir de la tectonique des plaques. Donc si la station suivait la tectonique des plaques, on aurait quelque chose qui est très proche de cette ligne droite. Et ce qu'on observe à partir de Doris, vous voyez, est assez compliqué. Et on ne savait pas trop quoi en faire. Visiblement, il y a un signal, mais on ne savait pas comment l'interpréter. Donc on a joué un petit jeu, c'est-à-dire qu'on a essayé de regarder ça d'un point de vue géodésique et d'un point de vue géophysique. C'est-à-dire que d'un point de vue géodésique, on va essayer de se demander quelle est la manière minimale d'expliquer ces déformations en termes de période, comment est-ce qu'on peut le modéliser sous forme de pentes connectées. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut, à partir de ces pentes, en déduire des informations de type géophysique. Alors, si je reprends cette figure-là et que je retire ce modèle de plaque, cette fois-ci, on a les résidus qui se trouvent ici. Donc, vous voyez qu'au début, c'est cohérent que la technique des plaques. Après, c'est cohérent. Et puis, il y a tout un épisode assez complexe, donc on a modélisé comme ça, donc de manière continue, sauf en 2002, où là, visiblement, il faut introduire une discontinuité. Donc, sans entrer plus dans le détail, on voit qu'au début, on va vers le nord avec une vitesse très rapide, positive, et puis ensuite, il y a une espèce de phénomène de relaxation. Donc, on revient un petit peu vers le sud, dans ce cas particulier, mais de manière plus lente, et puis une discontinuité. Donc, le but est, est-ce qu'on peut expliquer ces trois types de déformations? Ça, c'est sur une composante, la composante nord, mais on avait aussi les résultats sur la composante est et sur la composante verticale. Donc, d'un point de vue planimétrique, si on regarde les déplacements qui ont eu lieu pendant les périodes que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un grand déplacement vers le nord pendant quelques années, et puis ensuite, on a toujours en rouge un petit déplacement qui va plutôt vers le sud, et puis la partie verte, ben, c'est la grosse discontinuité qui va vers le sud. Alors, comment expliquer ça? Ben, si on prend un modèle simple, donc qui est ce qu'on appelle un modèle de Mogi. J'ai essayé de faire ça graphiquement. Si vous avez quelque chose qui gonfle comme ça, donc on va gonfler, à ce moment-là, ce qui se trouve en périphérie va s'éloigner, va avoir tendance à s'éloigner. Si on a un système qui s'effondre plutôt, la station va avoir tendance à se rapprocher. Et par symétrie sphérique, bah, le point d'attraction ou de répulsion va passer par la direction de ce qu'on a mesuré. Donc ça, ces courbes-là, c'est entièrement mesuré avec Doris. On n'a fait aucune hypothèse sur la manière où se trouvait le volcan, etc. Et on a eu la grande joie de voir qu'en fait, ben, le déplacement pointe vers justement le volcan de manière négative, c'est-à-dire qu'on a tendance à se rapprocher du centre du volcan, ce qui veut dire que le volcan s'est effondré. Enfin, il y a eu une déplétion du volcan. Alors que ce qui nous a posé plus problème, c'est les deux petites déformations qui se trouvent là. Et les deux petites déformations, donc là, elles semblent s'éloigner, c'est-à-dire qu'il y a eu un gonflement. Et le gonflement vient... Alors, on a une seule station, donc on ne peut pas en dire grand-chose, mais visiblement, elle vient de cet endroit-là où on avait déjà eu une éruption sous-marine dans cette zone. Alors, lorsqu'on prend le modèle, cette fois-ci, en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on regarde bien toutes les composantes est, nord, verticale, on peut en déduire des informations sur ce gonflement, donc interpréter ensuite la quantité de lave qui s'est écoulée. Donc on a obtenu une certaine valeur qui est cohérente avec ce que l'on sait de ce type de volcan. Et puis, on peut aussi, puisqu'on a l'aspect vertical, essayer de déduire où se trouvait la chambre magmatique d'où la lave est partie. Et on trouvait une profondeur de l'ordre de 6 km qui est aussi compatible avec ce que l'on sait de ce genre de volcan. Donc malheureusement, on n'a qu'une station d'Eurys et pas de GPS. Donc c'est cohérent avec la physique, mais c'est non contrôlé pour l'instant. Alors je vais montrer maintenant des résultats plus récents encore. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le calcul, ce que j'appelle le GD spatial, c'est-à-dire on prend ces mesures Doppler, on les modélise. Donc on a le problème de la position de la station au sol, on a le problème de l'orbite du satellite, et puis on a toute une série aussi de termes correctifs. Un des termes correctifs étant par exemple la troposphère, puisque le signal radioélectrique ne se propage pas dans le vide, mais dans l'atmosphère. Il va être ralenti, et en fait ça donne une information indirecte sur la nature de cette atmosphère. Alors là, si je m'intéresse à la partie la plus basse de l'atmosphère, qu'on appelle la troposphère, eh bien, ce retard, il peut être calculé, qui est de l'ordre à peu près de 2 mètres. Il a une composante, disons 90% correspond à la pression sur la station, qui est relativement bien connue, et toute une autre partie, donc qui est beaucoup plus faible, mais beaucoup plus variable, dépend de l'humidité autour de cette station. Et là, ce que l'on voit, c'est que sur la station d'Afrique du Sud qui possède les trois systèmes, Doris, VLBI et GPS, eh bien, sur ce jour particulier, on voit qu'est passé donc, un front humide, donc, et les trois techniques sont assez en accord. Alors, la différence par rapport aux autres techniques, c'est qu'une technique de type GPS, donc c'est les petits ronds noirs, c'est une technique qui est continue parce qu'on a une trentaine de satellites dans le ciel, donc on a plusieurs observations toutes les minutes, alors que pour Doris, on ne voit les satellites Doris qu'en fonction du nombre de satellites, et typiquement c'est 15-20 minutes, puis ensuite il faut attendre l'autre satellite, c'est-à-dire quelques passages, une dizaine, une douzaine de passages par jour. Donc c'est ce qu'on constate ici, c'est-à-dire qu'entre là, et là, il n'y avait pas de satellites Doris qui sont passés. Et puis ensuite, on a des trous. Donc on ne peut le faire qu'au moment où on a des observations. Donc voilà deux exemples qui montrent qu'on a un accord avec les techniques. Alors, à quoi ça peut servir? D'abord, ça ne va pas servir pour la météo, pour la prévision. Parce que autant GPS peut être utile pour ces prévisions météo, parce que les mesures sont disponibles au sol, en temps réel, elles peuvent être traitées très rapidement dans l'heure qui suit et on peut donner ces résultats troposphériques, donc pour les donner dans des modèles d'assimilation pour prévoir le temps. Doris, on dispose des mesures, comme c'est un système inversé, assez longtemps après, typiquement 15 jours, un mois après. Donc on ne peut pas l'utiliser pour des prévisions. Par contre, on s'est rendu compte qu'on peut utiliser ce phénomène-là pour faire un peu une calibration. Utiliser le fait que Doris observe depuis 1993 à 2009, et lorsqu'on observe des discontinuités, par exemple dans des séries GPS, regarder ce qui se passe dans la série Doris, et on a pu, grâce à ça, voir un certain nombre de problèmes dans GPS, en particulier lorsque les gens de GPS ont fait des retraitements, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais qui prennent en compte, disons, des corrections au niveau de l'antenne GPS. Eh bien, entre l'ancien calcul et le nouveau calcul, la différence est beaucoup plus importante que ces variations-là. Donc, quand on a seulement la série GPS, on voit un saut, mais on ne peut pas l'expliquer. Quand on a la série Doris, ça permet de raccrocher un petit peu et de mieux déterminer ce biais. Donc, plutôt pour la climatologie. Alors, l'autre chose, donc encore plus récente, c'est que ça, ce modèle troposphérique, c'est un modèle très très simple, c'est-à-dire que on regarde où se trouve le satellite dans le ciel, vous comprenez bien que plus le satellite va être bas sur l'horizon, plus je vais intersecter cette couche basse de l'atmosphère sur une grande distance, et donc plus la correction troposphérique va être importante. Et en gros, ça va varier en l'inverse du sinus de cet angle. Donc ça, c'est simplement l'effet que le trajet va intersecter la couche troposphérique à différents angles d'élévation. Alors il y a aussi un autre phénomène qui est encore beaucoup plus petit, qui est un phénomène d'anisotropie. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, on a une perturbation qui vient de l'ouest, on a de l'humidité qui est plutôt du côté ouest, et elle se déplace du côté ouest, ce qui veut dire que si on regarde les satellites, ceux qui vont être plutôt du côté ouest vont avoir une correction troposphérique qui va être plus importante, et si on regarde du côté est, ils vont avoir une correction moins importante. Donc ça, pour prendre en compte ça, on rajoute dans le modèle ce qu'on appelle des gradients troposphériques. Donc gradients troposphériques suivant la composante est, suivant la composante nord, pour regarder toutes les directions de l'espace. Et le problème, c'est d'être sûr, disons, que ce gradient correspond bien à de la troposphère, qu'il n'absorbe pas une autre erreur de modèle. Alors pour faire ça, avec un collègue américain, on a regardé sur les ronds rouges sont les collocations entre du GPS et du DORIS, donc deux types de mesures différents. On a fait le même calcul de manière séparée. On a obtenu pour chaque station des gradients troposphériques horizontaux, donc qui sont des choses, comme vous voyez, très très petites. Là, c'est on a entre 0 et 1 mm ici, donc vous voyez que les valeurs sont submillimétriques, alors que la correction troposphérique elle-même est de l'ordre de 2 mètres. Donc vous voyez qu'on regarde des petites choses. Alors si on essaye de mettre sur le même graphe en abscisse, en X, la valeur qui est trouvée pour GPS et en ordonnée, en Y, la valeur qui est donnée par le résultat d'ORIS, vous voyez que les choses s'alignent à peu près bien, que les résultats sont corrélés. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, ce qu'on ne savait pas jusqu'à très récemment, on peut estimer des gradients troposphériques horizontaux et que ça a une certaine signification. Et puis, pour GPS aussi, c'est assez intéressant parce que il y a aussi d'autres phénomènes qui pourraient être absorbés par ce type de calcul, en particulier des phénomènes liés à l'antenne GPS. En particulier, donc, la personne qui a fait ça avec moi, c'était Joas Barsever au JPL, donc, qui est un grand spécialiste de ça. Et pour lui, il n'était pas encore convaincu à 100% que ces gradients troposphériques horizontaux étaient vraiment de la troposphère. Ça peut aussi être des erreurs qui viennent de l'antenne, qui fournirait le même signal. Or là, on voit qu'avec des équipements différents, des systèmes différents, on trouve des choses qui sont très corrélées. Donc ça sera pour la prochaine génération de l'ITRF. Donc très rapidement, disons depuis quelques années, un système international d'ORIS s'est créé qui s'appelle l'IDS. Et c'est un service qui est un service de l'Association internationale de géodésie qui essaye de fédérer un peu tous les groupes dans le monde qui analysent des mesures d'ORIS, donc qui collectent les mesures d'ORIS. Ensuite, on a un certain nombre de centres d'analyse qui vont récupérer ces mesures, les traiter, donc soit pour calculer des orbites de satellites, soit pour calculer des positions de stations, des vitesses de la troposphère ou quoi que ce soit. Et tous ces résultats, en fait, sont redonnés, éventuellement cumulés entre eux pour avoir une meilleure solution, au niveau des centres de données et directement utilisable par d'autres personnes. Donc c'est un peu comme ça que marchent les services scientifiques de l'Association internationale de géodésie. Alors la grosse différence avec, je dirais, avant 2007, donc vous voyez que c'est des choses très récentes, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, il y avait principalement deux groupes qui fournissaient des solutions d'ORIS, un groupe à Paris et un groupe à Toulouse, donc deux groupes français, un groupe aussi en Russie, mais qui utilisait le même logiciel. La différence par rapport à 2007, c'est que de nouveaux groupes interviennent maintenant, en particulier un groupe de la NASA, un groupe de l'Agence spatiale européenne, et puis tous ces groupes utilisent des logiciels qui sont différents, donc qui ont aussi à chacun une certaine particularité. Certains vont être meilleurs pour tel type de traitement, d'autres meilleurs pour tel autre type de traitement. Et le fait de grouper un peu les énergies et de pouvoir intercomparer avec des approches différentes de calcul nous a fait beaucoup progresser au cours des deux dernières années et probablement pour les années qui viennent aussi. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Donc DORIS, c'est un système français opérationnel depuis 20 ans en fait. On va fêter l'anniversaire au mois de janvier. La particularité, on a un réseau dense qui peut servir d'observation géodésique et géophysique. Les principales observations, bon, j'ai parlé très rapidement des applications d'orbitographie précise qui sont en fait le cœur, si on veut, de DORIS, mais ma spécialité étant plutôt la géodésie, j'ai insisté sur ces aspects-là. Et puis, très rapidement, le futur, bien, Le futur, on a déjà plus de satellites. Ces satellites, je n'ai pas pu rentrer dans les détails, mais à partir de Jason 2, un nouveau type de mesure est disponible, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mesures. Au lieu d'avoir, comme avant, un seul canal, donc on observait une station puis une autre, là, on est rentré dans une dynamique un peu comme GPS, où on a 7 canaux à bord du satellite et on observe potentiellement 7 stations au sol en même temps, ce qui fait qu'on a une augmentation de mesures qui va améliorer les résultats géodésiques. Et puis, en dernier, mais ce n'est pas le moindre, quand on a 700 d'analyses qui sont des centres actifs et qui obtiennent tous ce type de résultats, eh bien, déjà, l'émulation entre les centres fait que chacun s'améliore naturellement. Et lorsqu'en plus, on est capable de combiner, comme on a fait cette année pour l'ITRF 2008, ben, le résultat combiné de toutes ces solutions est meilleur que chaque solution individuelle. Voilà, je vous remercie.
Le système spatial DORIS, c'était le thème de la conférence de Pascal Villis, géophysicien, chercheur à l'Institut physique du globe de Paris, conférence qui avait lieu au Bureau des longitudes à l'Institut de France en janvier 2010. Pour rappel, les conférences du Bureau des longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines conférences, vous pouvez vous connecter à leur site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.